suis doctorant en sciences politiques à l'Université de Lyon. Je réalise mes recherches au sein de l'Institut d'Asie orientale. Et je suis à terre à Sciences Po Lyon, donc en quatrième année de thèse également. Donc ma thèse qui porte plus généralement sur l'émergence des politiques de changement des comportements dans le domaine de l'énergie au Japon dans les années 2000-2010, avec une partie assez importante qui traite des smart grids, et donc sur laquelle j'ai axé ma présentation aujourd'hui. Alors sachant que par smart grid, j'entends smart grid au sens large, puisqu'au Japon l'expression smart grid est assez peu employée, on parle plutôt de smart community, qui prend en compte beaucoup plus de dimensions que seulement le réseau électrique intelligent lui-même, mais je reviendrai dessus. Donc sachant que ces smart communities, hein, les quatre projets sur lesquels je vais travailler sont des projets labellisés par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, le METI, qui a choisi ces projets en 2010 pour y mener donc des expérimentations sur une durée de 5 ans. Donc ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est voir d'abord comment est-ce que les sciences comportementales sont mobilisées dans ces smart communities pour tenter de changer les comportements et pour mesurer la stabilité sociale, un certain nombre de mesures qui sont expérimentées, et également essayer de voir quels sont les paradoxes, voire les contradictions dans ces mesures en retraçant les stratégies et les faits et gestes d'un certain nombre d'acteurs. Donc je m'appuie en particulier sur mon article dans la revue de Vertigo, donc si jamais vous voulez plus de détails, c'est possible d'aller voir, sachant qu'il y a aussi d'autres éléments que j'ai ajoutés après avoir croisé les réflexions avec Cécilia et Jérôme. Donc je vais procéder en quatre parties. D'abord, deux parties assez brèves qui me semblaient importantes, d'abord pour introduire cette notion de stabilité sociale telle qu'elle est maniée au Japon, et pas être seulement avec une conceptualisation française ou anglophone. Ensuite, faire un bref retour sur les enjeux énergétiques et qu'est-ce qu'on entend par développement durable, comme ça fait partie aussi du nom de l'atelier au Japon, avant donc de passer plus de temps sur ce qui va être expérimentation sociale au Japon dans les smart communities et comment est-ce que l'analyse de ces projets contribue à celle de la stabilité sociale. Voilà. Donc, alors déjà, en japonais, on a un terme assez clair pour parler de la stabilité sociale, c'est Shakai Teki Juyo ou Juyosei, et donc on a en fait la même tension entre acceptation ou acceptabilité. Et en fonction des auteurs et en fonction des disciplines, on va employer plutôt une expression ou l'autre. Et donc, les japonais ont comme synonyme le terme Juyo pour acceptation ou acceptabilité, et si on regarde le terme tout seul, c'est la réception. Donc, c'est est-ce que les gens reçoivent, est-ce que quelque chose est recevable. Donc il y a une petite nuance, mais bon, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse du vocabulaire. Donc, par contre, il y a une littérature donc, qui est assez dense sur le sujet au Japon, avec toute une grande catégorie qui va traiter tout ce qui va être le risque. Donc le risque lié aux produits chimiques, le risque lié au traitement et au stockage des déchets radioactifs, également le risque lié à l'énergie nucléaire elle-même. Il y a pas mal de recherches donc, qui est faite aujourd'hui. J'ai par exemple un collègue sociopsychologue au Japon qui a été demandé de la part de l'agence de l'énergie qui est rattachée au METI d'essayer de réfléchir à comment persuader les gens d'être favorables à l'énergie nucléaire par exemple. Donc l'idée de faire accepter quelque chose qui est a priori pas acceptable, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les demandes qui émanent des acteurs publics au Japon. Et déjà, si on regarde plus loin, je ne sais pas si vous connaissez ce petit bonhomme Astro Boy, en japonais son nom c'est Tetsuan Atomu. Et Atomu, c'est pas par hasard, Atomu c'est l'atome, parce que c'est un robot dont le combustible est nucléaire. Et donc en 52, il est là pour montrer qu'on peut être fort, avoir un grand cœur et sauver les êtres humains grâce à l'énergie nucléaire. Son nom initial était Taishi Atomu. Taishi Atomu, c'est l'ambassadeur de l'atome. Donc on a déjà une tradition assez ancienne au Japon d'essayer de faire accepter des choses, dont quelque chose qui paraît inacceptable, comme pouvait l'être l'énergie nucléaire 7 ans après la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Donc si on regarde ce premier pan de recherche qui mobilise ce terme de Shakai Teki Juyo, stabilité sociale, on est donc dans le cas d'acteurs privés ou publics puissants, comme l'État, qui veulent donc essayer de faire accepter des choses qui sont a priori craintes ou bien jugées inacceptables par la population. Donc, par contre, on a aussi tout un courant de recherche qui s'intéresse plutôt à la stabilité de ressources et d'infrastructures d'énergie renouvelable, par exemple la géothermie, l'éolien. Donc là on va être plutôt dans des petits comités, des structures associatives, des chercheurs universitaires qui vont essayer de voir les conditions de stabilité d'éolien ou de, ce genre de choses. Et donc si on regarde au niveau de la conceptualisation de ce terme, de cette notion de télé sociale au Japon, on a trois catégories. Soit on a une absence de conceptualisation, quand on va aller voir du côté des think tanks, etc., on ne va pas forcément conceptualiser, on va se demander, alors, est-ce que les gens s'opposent, est-ce qu'ils sont favorables ou non, et on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin. Il y a toute une partie aussi des travaux qui reposent sur les concepts de la littérature anglophone, en particulier les articles de la revue Energy Policy, avec des articles de référence comme ceux de Martin Wolfsink, par exemple, qui sont abondamment repris par les chercheurs japonais en sciences sociales qui publient en anglais. Et on a aussi donc des concepts japonais. À ma connaissance, on a donc la notion de triple I, Inclusive Impact Index, qui provient en fait de chercheurs en océanographie au Japon, qui ont mobilisé d'abord, donc c'est un espèce d'indicateur qui permet de confronter la faisabilité économique, l'acceptation par la population et en même temps les dommages et l'impact au niveau écologique. Et ça a donc été au début dans le secteur océanique et ça a ensuite été exporté pour analyser dans d'autres domaines comme on voit ici les Power Generation Technologies par exemple dans un article récent en 2015. Là d'ailleurs ici on parle de Public Acceptance, mais le terme en général choisi est quand même de Social Acceptance ou Acceptability. Et ce qui est intéressant avec ce concept de triple I, c'est que c'est en fait une approche qui est quantitative. Vous voyez ici des équations, on va essayer de mettre en chiffres l'impact social, économique et écologique pour essayer de voir si une solution va être acceptable ou non. Donc, je vous épargne tous les détails, d'autant plus que c'est écrit en japonais ici. Mais donc ce qui nous amène en fait à des conceptions qu'on peut avoir de la stabilité sociale au Japon qui sont finalement assez similaires à celles qu'on trouve dans les littératures anglophones et francophones, avec d'une part concevoir cette notion comme une évaluation ou un diagnostic. C'est ce qu'on a vu avec l'approche du triple I, c'est est-ce que telle mesure est acceptable ou non. On fait un diagnostic, on évalue, sans forcément de jugement de valeur ou sans forcément un intérêt pour la façon dont le projet est rendu acceptable. On a donc un autre élément qui va être plutôt de voir l'activité sociale comme un impératif. L'idée d'une chose qu'il faudrait faire accepter, à l'image de l'énergie nucléaire, par exemple, dans laquelle on voit le social comme une menace. Et donc on a au Japon des centres de recherche privés, des think tanks, qui sont justement mobilisés pour ça et qui vendent leurs services pour garantir cette acceptabilité. A l'inverse, on trouve, comme c'est également présent dans la littérature francophone, que ce soit en France ou bien beaucoup au Québec, une littérature qui voit plutôt cette notion comme un processus ou une construction collective, indéterminée, d'un compromis socialement acceptable, avec l'aide d'un grand nombre de parties prenantes. Donc on n'est pas là pour faire accepter quelque chose qui est designé a priori, mais plutôt pour construire ensemble une solution qui de fait sera acceptable parce qu'elle a été décidée par l'ensemble des acteurs concernés. Donc là, je me réfère justement très rapidement donc, à une définition assez commune de Fortin et Fournis. Et ce qui est amusant, c'est qu'on trouve justement au Japon des chercheurs qui ont la même démarche, avec en particulier un auteur de référence dans le domaine qui s'appelle Maruyama Yasushi, qui justement en 2014 écrit un livre de référence qui prend la synthèse de ses travaux, La socialisation des énergies renouvelables, repenser la stabilité sociale, où justement il propose une conception alternative et plus riche, un petit peu à l'image de ce que font nos collègues québécois depuis quelques années. Donc voilà un petit peu pour ce bref tour d'horizon de la situation japonaise. Maintenant je vais aller aussi assez vite sur les enjeux énergétiques. Et qu'est-ce qu'on entend par développement durable au Japon? Pour bien comprendre pourquoi est-ce que actuellement on essaie de changer les comportements à l'aide des smart grids au Japon. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la source d'énergie principale au Japon, c'est le pétrole, et que ce dernier provient à plus de 80%. Donc là, on est en 2010, hein, on parle de la situation d'abord avant Fukushima. Et donc on était en 2011 encore à plus de 80% du pétrole qui vient des pays du Golfe. Donc si on regarde historiquement, la situation était encore bien pire avant les chocs pétroliers, puisque dans les années 70, on était à 75% de l'énergie qui venait, qui était donc du pétrole, et qui venait à plus de 90% à l'époque des pays du Golfe. On a donc eu le choc pétrolier, et on s'est rendu compte de la grande vulnérabilité, dépendance énergétique du Japon. Les premières mesures ont été de diversifier le mix énergétique, en renforçant un petit peu le charbon qui était en déclin, mais surtout en ayant recours au gaz naturel et au nucléaire, vous voyez, qui a commencé à être développé dans les années 70 et qui stagne depuis les années 90. Donc on voit ici en 2012 hein, un petit gain des combustibles fossiles. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2012 et surtout 2013, l'énergie nucléaire représente 0% du mix énergétique. Et vous voyez là une évolution. En 2012, on arrive à 2% parce que quasiment toutes les centrales sont fermées. Un gros progrès du gaz naturel liquéfié, du charbon, un petit peu également du pétrole. Avec donc les chiffres qu'on a donc en 2014. Avec ce qui est notable aussi dans le cas du Japon, c'est très peu d'énergie renouvelable. On a 6% de large hydraulique, mais si on regarde le reste, on est à 0,2 de géothermie, 0,5 d'éolien. Et pour le solaire, on était à 2%. Là, on est dans le mix électrique en 2014. Mais c'est quelque chose qui est très récent. On était encore à 0,2 ou 0,3% trois années avant. Et pourquoi ? Parce qu'en 2012, on a le feed-in tarif qui a été adopté et qui a permis donc d'avoir une grande progression du photovoltaïque au Japon. Là, vous voyez entre 2012 et 2013 l'évolution des panneaux solaires au Japon. Mais on a donc des très gros problèmes justement d'acceptabilité au Japon pour tout ce qui est énergie renouvelable, surtout pour l'éolien et la géothermie. On parle au Japon de maladie de l'éolien, dans le sens où vraiment il y a un problème au niveau local, personne ne veut avoir une éolienne. Et pour la géothermie, c'est aussi dû au fait que les Japonais aiment beaucoup les sources chaudes, et il y a des très gros problèmes au niveau de l'industrie touristique, et encore beaucoup de pression, si bien que cette question d'acceptabilité des énergies renouvelables est assez importante. Donc, plus récemment, une autre solution qui a été trouvée pour réduire la dépendance énergétique du Japon réside donc pas uniquement dans la diversification des sources d'énergie, mais plutôt dans un constat qui est qu'entre 1973 et 2012, si on regarde la consommation d'énergie du Japon, elle a été multipliée par 1,3. Par contre, si on regarde spécifiquement au niveau industriel, elle a diminué, hein, multiplication par 0,9. A l'inverse, si on regarde dans le secteur résidentiel et commercial, on était à 18% de la consommation totale en 1973, on est passé à 33,5% en 2012, soit une multiplication de 2,4 en valeur absolue. Et donc tous les textes de loi et tous les projets aujourd'hui au Japon qui parlent d'énergie partent de ce constat-là. Il y a de plus en plus de consommation d'énergie dans le secteur résidentiel. On a amélioré l'efficacité énergétique, mais à cause de la consommation accrue des ménages, finalement, on n'arrive pas à réduire notre consommation d'énergie totale. Si bien que depuis les années 2000, il y a justement ce projet qui est de changer les comportements, puisqu'on se rend compte qu'améliorer l'efficacité énergétique ne suffit pas à cause de la multiplication des différents appareils employés par les ménages et de l'accroissement donc, de leurs exigences en termes de confort, de qualité de vie, etc. Donc, également très rapidement, ce qu'il faut comprendre quand on s'interroge comme ça sur les comportements de consommation d'énergie au Japon, c'est qu'on ne consomme pas l'énergie exactement au Japon comme on la consomme en Europe. Et donc parmi les nombreuses spécificités, il y en a trois qu'il faut retenir. D'abord, c'est historiquement en Japon une tradition de chauffer non pas l'espace, mais de chauffer les corps. Donc là, c'est une tradition qui est un petit peu en déclin, ce qui fait qu'en particulier, du fait des hivers qui sont en général très, très froids, et de l'été qui est très chaud et surtout très humide, on a une multiplication depuis quelques années des climatisations qui sont réversibles, donc à la fois pour chauffer l'hiver et donc pour refroidir l'été, et ce dans tout le pays, ce qui génère une très forte consommation d'énergie et donc un besoin particulier à gérer. Et un troisième point, c'est le goût des Japonais pour le bain chaud. Le bain chaud, c'est quelque chose de très important. En général, on ne prend pas seulement une douche, mais c'est bien un bain, surtout en famille, avec le bémol, c'est qu'on peut partager l'eau, soit on prend le bain en même temps, soit l'eau est réchauffée d'une personne à l'autre, et on se baigne donc successivement. Mais là encore, c'est une chose qu'il faut prendre en compte quand on s'interroge justement, quand on s'intéresse au comportement de consommation d'énergie au Japon. Enfin, sur la terminologie, il existe un terme en japonais de développement durable, Jisukukano na Kaihatsu, mais qui est assez peu employé en fait, qu'on trouve extrêmement peu. Par contre, depuis 2011, et donc l'accident de Fukushima et tous les mouvements qu'il y a eu en Allemagne pour sortir du nucléaire, il y a le terme Energy Transition qui a été japonisé dans Energy Transition qui a un peu de succès. Mais c'est surtout le terme de Low Carbon Society qui a été traduit en japonais, là par contre dans du pur japonais, Teitanso Shakai, qui est l'expression la plus fréquente quand on parle de nouveaux modes de vie, de développement durable. Voilà, c'est l'équivalent, le terme phare qu'on a au Japon. On parle aussi de technologie Teitanso. Donc Teitanso, c'est faible carbone ou sobre en carbone. Donc maintenant que tout ça est précisé, je vais pouvoir passer donc aux Smart Communities, expérimentées donc par le METI. depuis 2010. Alors, donc les Smart Communities, qu'est-ce que c'est? C'est, en gros, le métier demande en 2010 à des collectivités territoriales, donc soit des municipalités, soit des départements, de s'associer à des boîtes privées pour monter des démonstrateurs, pour expérimenter les Smart Grids et donc toutes leurs technologies et services associés. Donc c'est des compteurs communicants, des systèmes de demande-réponse, de tarification dynamique, des batteries de stockage, des panneaux solaires, des systèmes de cogénération, des véhicules électriques individuels ou bien à partager. Et donc tout ça doit être expérimenté, l'État japonais étant à la poursuite de trois objectifs en particulier, propager les compteurs communicants dans tous les foyers d'ici à 2020, intégrer davantage d'énergie renouvelable dans le réseau, on a vu que c'était un gros point faible qu'il y avait au Japon, et également positionner les firmes japonaises sur le marché de l'avenir dans tout ce qui va être Smart Grids, parce que le discours d'Obama et son programme dans le Green New Deal de 2009, où il parle des Smart Grids, a eu un énorme impact au Japon, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un marché porteur, et qu'il fallait que pour une fois, les Japonais arrivent à diffuser leurs technologies et à les exporter partout dans le monde. Donc quatre Smart Communities ont été retenus. Vous avez ici la liste des quatre projets. Alors, le choix a été fait de manière stratégique, de façon à avoir toute la variété de l'archipel et la géographie nippone représentée dans ces quatre cas. Vous avez Yokohama, qui est une métropole extrêmement dense, voisine de Tokyo, où 5000 foyers vont participer à l'expérimentation. À Toyota City, on a une ville provinciale assez étendue, qui dépend beaucoup de la voiture, qui est aussi le berceau de l'entreprise Toyota Motor. À Toyota City, vous avez à peu près 270 foyers qui expérimentent. À Kyoto-Keihana, là, on a une cité scientifique, donc il y a une interaction entre tout ce qui va être acteur académique, la recherche et développement, mais aussi avec des zones résidentielles en périurbain, des maisons individuelles qui permettent d'expérimenter, là encore, auprès de 230 ménages. Et à Kita-Kyushu, qui est aussi une ville intéressante, puisque c'est une ville qui était autrefois extrêmement polluée, s'est reconverti de manière écologique et qui expérimente justement sa smart community dans une friche industrielle, donc dans un contexte encore particulier avec autour de 230 foyers également. Donc s'il faut expérimenter, hein, au-delà des différentes technologies que j'ai évoquées, c'est justement un certain nombre de services et de mesures pour changer les comportements des ménages. D'une part, donc, le demande-réponse, ça consiste à envoyer un signal prix au foyer, soit la veille, soit le jour même, pour leur dire que de telle heure à telle heure, parce qu'on attend un pic de consommation, le prix du kilowattheure va être augmenté et multiplié par 2, par 3, par 4, voire jusqu'à 7 fois, pour inciter les ménages à arrêter leur consommation, ou à réduire leur consommation pendant la période de pic. Donc c'est quelque chose qui avait tout son sens, en particulier après Fukushima, où justement on avait besoin, par moment, de réduire drastiquement la consommation. Comme vous voyez justement, le message en haut à gauche, demain de 9h à midi, le prix va passer de 31 yens, donc à peu près 20 centimes, à 110 yens, à peu près 80 centimes, donc le prix du kilowattheure. Et vous avez à droite un schéma qui vous montre la tarification en fonction de la journée. Donc en plus du demande-réponse, il y a aussi des dispositifs qui permettent de voir sa consommation d'énergie. Donc sa consommation d'énergie, on peut voir à la fois combien est-ce qu'on produit, combien est-ce qu'on consomme, combien est-ce qu'on stocke dans sa maison, si on est équipé des technologies associées. On peut aussi voir tout simplement combien d'énergie est-ce qu'on a consommé dans le mois. On peut aussi avoir des comparaisons avec ses voisins, des comparaisons avec soi-même le mois précédent par exemple, et aussi avoir des conseils qui nous suggèrent des actions à entreprendre pour réduire sa consommation d'énergie. Donc ces informations sont rendues disponibles via des afficheurs muraux, des tablettes, des smartphones, voire pour une vingtaine de maisons à Kita-Kyushu via un petit robot qui est connecté donc à la moitié et qui est capable de changer de couleur et de vous parler, soit pour vous avertir, soit pour vous féliciter, soit pour vous réprimander, en fonction de vos comportements. Donc chaque entreprise doit, pour ce qu'elle expérimente, rendre un rapport régulier au ministère, au METI. Mais en plus de ça, le METI a mandaté un chercheur en économie comportementale, qui est en fait le chercheur en la matière le plus réputé au Japon, et elle en a fait son superviseur, pour mener ce qu'on appelle une expérimentation randomisée contrôlée. En anglais, c'est Randomized Control Trial. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre d'expérimentation. Ça consiste en fait à prendre une population, à la scinder en différents groupes, et le plus important, avoir un groupe qu'on appelle contrôle ou bien témoin. C'est un groupe à qui on ne va rien faire, et il va nous servir de comparaison pour les interventions qu'on va faire sur d'autres groupes, qu'on appelle les groupes traitement. Donc on va pouvoir voir, par exemple, à l'origine, ça se faisait pour des médicaments. On peut regarder si un médicament est efficace, puisqu'on a deux groupes a priori similaires, puisqu'on les a répartis de manière aléatoire, et on va tester le médicament sur un groupe et pas sur l'autre, ou bien un placebo sur l'un et pas sur l'autre, et comme ça on peut comparer les différents résultats. Donc ça s'est fait d'abord dans le domaine des sciences économiques et sociales, dans l'aide au développement, les travaux de Esther Duflo en particulier. Ensuite, ça a été élargi pour l'aide au retour à l'emploi. Et donc là, plus récemment, dans le cas du Japon, qui en fait copie ce qui se fait aux États-Unis, ça se fait pour mesurer le demande-réponse et la tarification dynamique. Donc ce chercheur a donc composé des groupes dans les 4 Smart Communities, en général deux groupes, un contrôle, un traitement. Il y a seulement à Keihanna, je reviendrai, où vous avez en fait 4 groupes différents. Et donc ce qui est expérimenté, par exemple ici à Kitakyushu, c'est une tarification dynamique. Justement, vous avez des niveaux de prix qui vont varier. Là, on est en hiver, donc entre 8h et 10h, puis 18h et 20h, vous avez une tarification qui peut augmenter, qui peut passer de 20 yens par kilowattheure jusqu'à des niveaux 50, 75, 100, voire 150. Et comme ça, on peut savoir quel niveau de prix a le plus d'impact. On expérimente aussi, si jamais il y a un résultat différent, si on envoie le signal la veille au soir ou le jour même. Donc, sachant que les jours où vous avez cette tarification spécifique, c'est les jours l'été où il fait plus de 30 degrés, l'hiver où il fait moins de 5 degrés ou moins de 10 degrés, ça dépend des villes et des climats, et c'est que en semaine. Donc en général, c'est issu entre 30 et 40 fois par saison, donc c'est fait l'été et l'hiver. Donc à Kitakyushu, on peut changer la tarification elle-même, c'est le prix du kilowattheure qui change. Dans d'autres projets, c'est en fait des points sont donnés initialement au ménage, et ensuite chaque kilowattheure consommé durant les périodes de points retire des points à ce capital, et à la fin de la saison, s'il reste des points, c'est transformé en yens et ça revient en ménage. Et donc ce qui est particulier à Keihanna justement, c'est qu'on n'a pas deux groupes, mais 4 groupes, parce que là on va tester non seulement la différence entre le fait de simplement visualiser sa consommation d'énergie et le fait d'avoir aussi la tarification qui change, mais aussi on va tester l'influence des consultations d'économie d'énergie. Là, il y a des spécialistes qui vont se rendre au domicile des ménages, leur parler pendant 1 à 2 heures pour leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent réduire leur consommation d'énergie, en leur donnant donc des conseils personnalisés. Donc, en plus de tout ce qui est fait à ce niveau-là, au niveau donc d'enquête, au niveau on va dire quantitatif, est-ce que les comportements changent en fonction des changements du signal prix, il y a aussi des questionnaires, des entretiens, des focus groups qui sont menés avec les habitants pour essayer d'avoir aussi un point de vue plus qualitatif sur leur ressenti et leur expérience par rapport à la tarification dynamique et à ces différentes technologies de visualisation de la consommation. Ce qui m'amène donc maintenant à revenir un peu plus précisément aux enjeux en termes d'acceptabilité sociale, puisque dans le cas du Japon ici, l'enjeu il n'est pas de savoir si les gens acceptent ou non d'avoir un compteur communicant. Les ménages sont en fait à chaque fois volontaires. Donc l'idée n'est pas de savoir est-ce que c'est acceptable pour eux d'avoir un compteur, est-ce que c'est acceptable qu'on analyse leurs données. Ils sont volontaires, la question n'est pas ici. Un point par contre qui va être appréhendé de la manière est-ce que les gens acceptent ou refusent, ça va être quand on va essayer de contrôler à distance leurs appareils. Que dans certains cas, on peut contrôler les climatisations et le chauffage à distance en fonction des besoins du réseau. Et là, c'est intéressant de voir est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ou non. Et donc certains acteurs des entreprises fournisseurs d'énergie, là ont clairement dit, notre objectif c'est de savoir jusqu'où on peut aller dans ce qui est acceptable, parce que c'est plus efficace en fait si on ajuste le fonctionnement des appareils de manière automatique que si on compte sur les comportements individuels. Et donc ici, c'est pas une idée de savoir si c'est acceptable d'installer une centrale nucléaire, d'installer un centre de traitement des déchets ou autre. La question, là, quand on parle d'acceptabilité sociale, c'est pas de ça dont il est question. C'est plutôt ce que j'ai inscrit en dessous, c'est est-ce que les gens vont consentir à adopter certains comportements, sachant que c'est globalement deux types de comportements, soit des gestes quotidiens, mettre ses appareils en veille, éteindre sa climatisation aux heures de pointe, réduire l'intensité de la climatisation ou son chauffage, éviter de ne pas prendre des bains ou de ne pas prendre des douches trop longues ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment, on s'adresse aux comportements de la vie quotidienne, mais ça peut aussi être des actes d'achat. Puisque une des priorités du gouvernement japonais en termes de politique énergétique, c'est de faire en sorte que les appareils plus efficients soient diffusés au maximum dans les foyers japonais, et donc inciter les gens à renouveler leur parc électroménager pour acheter des frigos, des air conditionnés qui soient plus efficaces. Donc l'enjeu ici, hein, quand on est dans la première catégorie, donc les gestes quotidiens, période de pic, etc., c'est quel type d'incitation est efficace? Est-ce que c'est une incitation qui est plutôt économique? Et si oui, si c'est économique, est-ce qu'il vaut mieux avoir des incitations avec des yens ou avec des points? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un niveau de prix qui va être x2, x3, x4, x5? Est-ce qu'il vaut mieux prévenir la veille ou le jour même? Et ensuite, au-delà de l'information et du signal prix, est-ce que ce qui est efficace, c'est d'envoyer des conseils, c'est de comparer la consommation avec celle des voisins, c'est d'envoyer un historique par rapport au mois précédent, c'est de dire combien est-ce que vous pourriez gagner si vous consommiez autrement? C'est vraiment de savoir quel type d'information envoyer sous tel type de support, sous quel format, a le plus d'impact. Et c'est un petit peu pareil donc, pour le deuxième point avec les actes d'achat, c'est quels sont les arguments qui vont pousser les ménages à consentir à changer leurs appareils. Donc on voit qu'ici, si on peut parler donc, en effet d'acceptabilité sociale, c'est pas dans une dimension politique. Est-ce que les gens sont pour ou contre un projet? C'est plutôt donc, une dimension pratique ou technique. Est-ce que les gens acceptent de changer leur comportement? Est-ce que même s'ils sont d'accord pour le faire, est-ce qu'ils arrivent à le faire? Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour que les comportements changent? Et donc tout ça m'amène à revenir justement à comment est-ce que ce qui se passe au Japon, dans cette expérimentation sociale, permet donc de contribuer à l'analyse de cette notion qu'on essaie donc de travailler dans le cadre de cet atelier d'acceptabilité sociale. Donc là, j'ai quatre points que je vais aborder, quatre axes. Le premier d'entre eux sera notamment donc, la diversité des registres de justification. Et donc là, en fait, je reprends l'expression qui était employée donc, par Cecilia Kleiss, puisque j'ai justement trouvé cette expression des impératifs non opposables assez intéressante, dans le sens où on va donc essayer d'inciter le changement des comportements en disant qu'il faut le faire pour la planète, ou il faut le faire pour la santé publique. Et donc on aurait donc un impératif non opposable où personne ne peut s'opposer justement à cet impératif, puisque c'est quelque chose qui va de soi. Ça a une puissance morale indéniable. Et bien justement, ce qui est intéressant dans le cas du Japon, c'est que finalement, ces impératifs non opposables sont au second plan. Alors pourquoi? Historiquement, en Japon, pour inciter les gens à consommer moins d'énergie, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait de l'information sur le changement climatique et sur les générations futures. C'était globalement la stratégie du ministère de l'Environnement dans les années 90, début années 2000, et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. À la fois de manière pratique, hein, empirique, il y avait des mesures, mais les comportements ne changeaient pas. Et également, au niveau théorique, on a découvert les travaux de psychologie sociale qui disaient qu'il y a une différence entre l'attitude et le comportement. Et même si on est favorable au changement des comportements, ça ne veut pas dire qu'on va changer son comportement. Donc, l'action publique, enfin, les acteurs publics globalement au Japon ont conscience de ça et ne font pas donc de cet impératif non opposable leur principal argument. Par contre, il y a un autre impératif non opposable qui a émergé après Fukushima, donc après mars 2011, c'est celui de la sécurité et de la stabilité du réseau. Parce que là, entre 2011 et on va dire 2012-2013, il a été possible de faire changer les comportements sans incitation économique. C'était seulement des messages moraux qui disaient « il faut que vous réduisiez votre consommation, sinon on risque le blackout et le pays sera paralysé ». Il y a au Japon une mémoire assez forte de la crise pétrolière des années 70, qui remonte à pas si longtemps que ça, donc il y a encore beaucoup de générations qui ont connu ça. Et donc il y a eu des mesures volontaires assez importantes pour réduire la consommation et faire en sorte que le réseau ne soit pas interrompu. Par contre, là, c'est quelque chose qui n'a pas duré de très longtemps, et dès 2013, il y avait à nouveau les pratiques de consommation d'énergie assez importantes qui sont revenues, d'autant plus qu'on avait trouvé un substitut à l'énergie nucléaire, substitut à la fois coûteux et polluant, puisque c'est du pétrole, du charbon et du gaz naturel, mais au niveau de la sécurité du réseau, il n'y avait pas de danger. Donc finalement, ce qu'on observe dans les Smart Communities et en général dans d'autres programmes de changement des comportements, que ce soit appliqué ou bien encore au niveau de la recherche, c'est d'autres registres de justification qui sont plus terre-à-terre, plus pragmatiques, dont on peut en identifier trois. Le premier étant le confort et commodité, le deuxième la santé, et le troisième, on se demandera si c'est vraiment un registre de justification ou non, qui reviendrait, qu'on pourrait appeler la norme sociale. Donc par confort et commodité, il y a trois mots qu'on retrouve partout au Japon dans le marketing et la communication. C'est le mot kaiteki qui veut dire confort, Benli qui veut dire pratique, et ensuite Kenko qui veut dire santé. On trouve ça vraiment partout. Et donc ce sont des éléments qui ont été mobilisés de manière croissante par les acteurs aussi bien publics que privés pour inciter les gens à consommer moins d'énergie. Alors ça peut paraître assez paradoxal au premier abord. En quoi est-ce que parler de confort, de commodité, de santé va amener les gens à consommer moins d'énergie? Alors premier élément, pour faire en sorte que les individus aient des batteries de stockage, des panneaux solaires et des systèmes de management de l'énergie chez eux, et donc consommer moins d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on surfe sur la vague de Fukushima. On explique en cas de séisme, en cas de tsunami, en cas de rupture d'approvisionnement, si vous avez vos panneaux solaires et votre batterie, vous êtes tranquille. Déjà, première chose qui marche, les gens consomment moins. Ils ne vont pas forcément consommer moins d'énergie, mais l'énergie qu'ils vont consommer sera d'origine renouvelable, puisqu'elle sera produite avec le panneau solaire, stockée dans la batterie, et donc ensuite utilisée sans recours au réseau. Là, c'est un premier élément qui a été assez efficace. Un autre élément, c'est des fonctions de contrôle à distance des climatisations, avec l'idée que quand les gens rentrent chez eux, ils mettent la climatisation à fond, et après ils la laissent à fond. Ce qui fait qu'il y a un usage qui est très fort hein, pour se rafraîchir l'été quand vous rentrez chez vous. Et bien, si on avait à l'inverse une fonction qui permette de l'allumer avant de rentrer chez soi, pour faire en sorte que quand on rentre chez soi, on a une température acceptable, et bien une fois qu'on est rentré chez soi, il fait bon, on n'a pas besoin de l'allumer, de la mettre à fond et de la laisser en activité. De même, si jamais on oublie de l'éteindre en partant de chez soi, avec sa fonction sur le smartphone, on peut l'éteindre. Donc, on a l'idée qu'avec ces fonctions-là, encore une fois, les gens pourraient avoir une utilisation plus efficace de leur air conditionné grâce à ces nouvelles fonctions. Et on vend ça sur l'idée du confort et de l'aspect pratique qui est je peux contrôler ma climatisation à distance, il fait frais quand j'arrive chez moi, si j'oublie, je l'éteins hors de chez moi. Un autre élément, mais là ce n'est pas les smart communities, c'est une étude qui a été faite par le ministère de l'Environnement qui consiste en fait à savoir pourquoi est-ce que les gens isolent ou non leur logement. Et donc, la réponse qui est apparue, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent d'isoler pour consommer moins d'énergie, ça ne les intéresse pas, mais isoler pour avoir moins de bruit, une isolation sonore ou phonique, là par contre, ça les intéresse. Et donc, vendre l'isolation avec cet argument-là, donc de la qualité de vie et du confort chez soi, là encore, a des répercussions en termes de consommation d'énergie. Alors, pour la santé, c'est un petit peu pareil. Les nouveaux modèles de climatisation qui sont plus efficaces, ils ont aussi des fonctions de purification de l'air. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à acheter ces nouveaux modèles, non pas pour consommer moins d'énergie, mais pour avoir un air plus sain. Donc il y a encore une argumentation qui est faite sur ces points-là. Et le grand projet en ce moment au Japon, c'est de fondre l'offre de Smart Energy et Smart Grids dans le Smart Health, donc dans la santé connectée, que là ça intéresse beaucoup plus les Japonais. Si vous réfléchissez au Nintendo Wii Fit, où on peut donc faire un peu de sport, faire attention à ses calories, à son poids, eh bien, ça a aussi du succès au Japon, et c'est un petit peu une extension de ces systèmes un peu connectés et technologiques pour gérer sa santé, auxquels on introduirait aussi des fonctions qui concernent l'énergie. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que paradoxalement, il n'y a pas finalement de tension, de contradiction entre recherche du confort et de la commodité et réduction de la consommation d'énergie. Du moins, on mise justement sur la recherche du confort, de la commodité et de la santé des gens pour les amener, presque malgré eux, à consommer moins d'énergie. Et donc un autre registre qui est aussi intéressant, c'est celui de la norme sociale. Et donc là justement, je ne sais pas si on peut parler de registre de justification, parce qu'on ne va pas justifier des comportements en disant « il faut faire ces comportements-là pour telle raison, pour l'environnement, pour la santé, pour le confort ». On va plutôt essayer de jouer sur la nature humaine pour inciter les gens à consommer moins d'énergie. Alors ça, comment ça marche? Je ne sais pas si vous connaissez les nudges, justement, hein, les coups de pouce pour amener les gens à changer leur comportement. Eh bien, tout ce qui va être norme sociale au Japon, c'était déjà mis en avant avant les nudges. En 2005, vous avez la campagne Cool Biz, durant laquelle le Premier ministre et son gouvernement mettent des chemises, parfois à manches courtes, et ce qui est important, c'est sans cravate et sans costume, pour montrer aux gens qu'on peut travailler l'été, justement, sans costume et sans cravate. C'est quelque chose qui, socialement, n'est pas acceptable avant 2005 pour un Japonais, même s'il fait 40 degrés, on va au travail avec cravate et costume. Et donc, grâce à cette campagne, avec à la fois les grands chefs d'entreprise, les gens au gouvernement qui montrent des nouveaux styles vestimentaires, en même temps l'industrie du textile, du prêt-à-porter qui montre aussi des nouveaux vêtements, qui a une gamme spéciale Cool Biz, tout ça a permis d'économiser a priori pas mal d'énergie et donc d'émissions de CO2, même si c'est dur à quantifier. Et donc, plus récemment, au Japon, donc c'est en 2010-2011, où les différents services ministériels découvrent les nudges, et en particulier les travaux de la firme O'Power aux États-Unis. O'Power qui justement envoie des smileys et des comparaisons aux ménages pour les amener à réduire leur consommation d'énergie. Savoir qu'on consomme plus que son voisin nous amène à consommer moins. Et bien au Japon, on a repris ça, donc parfois tel quel, parfois de manière plus originale. Vous voyez ici On consomme encore par rapport au ménage, hein, en haut à droite. Au milieu à droite, on a plutôt la moyenne. Donc, par rapport à la moyenne, vous êtes plutôt dans la moyenne, plutôt vous consommez moins d'énergie, plutôt plus. Et ce qu'on fait aussi en haut à gauche, c'est quand vous comparez à un animal. Un écureuil, si vous consommez peu. Un hibou, si vous consommez plutôt la nuit. Un éléphant, si vous consommez beaucoup. Ou ce genre de choses. Et là, les gens, quand ils savent, en particulier les femmes, quand on leur dit qu'elles consomment comme les éléphants, elles sont en général assez vexées. Et elles essaient justement de faire quelque chose pour consommer moins. Donc ça ne marche pas toujours, parce que certains hommes, quand on leur disait qu'ils consommaient comme des lions, ils étaient fiers. Alors que justement, l'idée était plutôt qu'ils prennent conscience qu'ils consommaient trop. Et donc, tout récemment, c'est quelque chose qui a eu lieu entre 2015 et 2016. Le METI a mandaté Opower Japan, qui a ouvert son antenne au Japon en 2014, et un think tank, justement, pour faire une étude sur 40 000 foyers, pour savoir si les Home Energy Reports, qui sont expérimentés aux États-Unis, fonctionnent aussi au Japon. Donc c'est une étude qui a été faite entre juin 2015 et mai 2016. Et donc les résultats sont positifs, ça marche aussi sur les Japonais. Donc voilà sur ce premier élément avec les différents registres qui sont employés. Deuxième élément aussi sur lequel je voulais revenir, c'était sur les tensions entre les différents projets de changement des comportements en Japon. Alors la première tension, elle est assez classique, j'irai assez vite, c'est la tension entre donc, le ministère de l'économie, du commerce, de l'industrie d'une part, et le ministère de l'environnement d'autre part. Le premier, son objectif, c'est donc la croissance économique, la sécurité énergétique, la compétitivité des firmes nippones. Mais pour l'autre, c'est plutôt la réduction des gaz à effet de serre et la consommation d'énergie en soi. Le problème, c'est qu'au Japon, le METI, hein, qui s'occupe de l'industrie et de l'économie, c'est lui qui est responsable de la politique énergétique. Donc, il y a une concurrence entre les deux ministères. Et on peut se demander justement s'il n'y a pas une contradiction, mais là, c'est quelque chose qui est très classique, hein, entre rechercher la croissance économique, la compétitivité des firmes, ou bien réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Et en effet, si on regarde les mesures de chaque ministère, le MOE essaie justement de réduire la consommation de manière absolue, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est lui qui promeut ce slogan de Taitanso Shaka, la société sobre en carbone. Mais du côté du METI, on parle de Shōenē, et Shōenē, ça veut dire efficacité énergétique. Donc on ne veut pas réduire la consommation en soi, ou alors éventuellement, mais avant tout en améliorant l'efficacité énergétique. Et donc il y a différents programmes comme ça qui ont permis d'augmenter le nombre d'emplois au Japon, de générer de la croissance, mais dont les résultats en termes d'émissions de gaz à effet de serre, enfin de réduction, sont soumis à caution. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est finalement assez classique. Par contre, ce qui est plus intéressant et plus novateur, enfin plus original dans le cas japonais, c'est qu'on a un conflit entre deux programmes de changement des comportements. Dans les années 90, au Japon, on avait peur d'être enseveli sous les déchets. Il fallait trouver une solution pour que les gens réduisent, réutilisent et recyclent leurs déchets. C'est l'initiative des 3R dans les années 90 au Japon. On a commencé à mobiliser d'ailleurs les chercheurs en psychologie sociale à cette fin. Donc, le concept qui sous-tend en fait la politique des 3R, c'est le mode Tainai. Mode Tainai, ça veut dire c'est du gaspillage. Il faut pas gâcher, c'est gâché, faut pas jeter, etc. C'est quelque chose qui a assez bien marché dans les années 90-2000. Au Japon aujourd'hui, les gens sont extrêmement disciplinés. Il n'y a pas une seule poubelle dans la rue qui n'est pas une poubelle à tri. Des fois, vous pouvez même marcher des kilomètres et des kilomètres sans trouver une poubelle, il n'y a pas un seul déchet par terre. Néanmoins, la politique actuelle de Shōenē, qui est de promotion de l'efficacité énergétique, demande aux gens de renouveler leurs appareils. Même si le frigo marche, si la télé marche, si la climatisation marche, il faut changer pour avoir quelque chose de plus efficace. Et donc, il y a pas mal de chercheurs, aussi bien dans les administrations centrales qu'au niveau local, qui ont recensé ce problème-là. Ils n'arrivent pas à inculquer les valeurs du Shōenē, donc à demander aux gens de changer leurs appareils, parce que les gens estiment que tant que ça marche, il faut le garder. Et donc on a le programme actuel, année 2000-2010 de changement des comportements, qui trouve comme obstacle un programme antérieur de changement des comportements, qui a tellement bien marché, qui justement fait entrave au projet actuel. Si bien qu'on peut parler, comme tu disais Jérôme tout à l'heure, justement de dilemme ou de tension pour les consommateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je conserve ce qui marche et je ne jette pas? Ou est-ce qu'à l'inverse, je change parce que c'est quelque chose qui est bien? Et alors, pour aller donc un petit peu plus vite, puisque j'ai déjà débordé un petit peu, donc deux points très brefs. D'abord, c'est l'impact en fait de la conjoncture et des accidents extérieurs sur la stratégie des différents acteurs. Fukushima en particulier a complètement changé la donne. C'est après Fukushima qu'on s'est rendu compte que le système énergétique japonais n'était pas aussi robuste qu'on le pensait, que donc il fallait le modifier. En particulier, on s'est rendu compte que l'offre pouvait être défaillante et qu'il fallait donc changer les comportements. C'est quelque chose qui n'était pas du tout évident avant et qui a complètement basculé en 2011. Et l'autre élément, c'est qu'après 2011, on s'est rendu compte que les monopoles régionaux, puisque les fournisseurs d'énergie au Japon sont des monopoles régionaux privés, eh bien, étaient aussi défaillants, que donc il fallait introduire de la concurrence. C'est suite à l'introduction ou la décision d'introduire de la concurrence que ces fournisseurs ont décidé, ils n'avaient pas le choix en fait, de développer des services auprès des consommateurs, parce qu'ils avaient désormais une clientèle à conserver et à capter. C'est comme ça que sont nés les premiers services aux consommateurs, dont en termes d'économie d'énergie. Là, c'est lié à Fukushima et donc la libéralisation qui a été conséquente. Alors, un dernier point que je vais aborder donc, en 3-4 minutes, parce qu'il me semble intéressant, c'est justement pour rebondir sur est-ce que c'est légitime d'essayer de faire changer les comportements ou de rendre acceptables des demandes de changement des comportements. On a donc une posture critique qui est assez classique, hein, où on va dire qu'on responsabilise les individus eux-mêmes en faisant un petit peu abstraction du contexte plus général qui va les amener à consommer beaucoup d'énergie. Là, je renvoie en particulier à toute la littérature sur les théories des pratiques sociales. Elisabeth Schaub, Al Willeit, Jolande Strengers qui a écrit son livre sur la smart utopia justement. Et donc justement, on oublie les autres facteurs. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui consomment beaucoup d'énergie? Eh bien, c'est aussi puisqu'il y a d'autres acteurs dont c'est l'objectif. Un certain nombre de firmes au Japon font en sorte que les gens aient envie de confort, de commodité, de sécurité pour pouvoir vendre leurs produits. Donc on peut se demander si justement, en se centrant sur le changement des comportements individuels, on n'oublie pas un certain nombre d'acteurs et de facteurs, et donc on n'est pas un peu cloisonné et on s'empêche d'agir sur les sources du problème. Bon, là, c'est une critique qui est donc assez classique. Avec un exemple typique au Japon, c'est est-ce que les fonctions qui permettent de contrôler la climatisation à distance, est-ce que ça va vraiment permettre de réduire la consommation? Ou est-ce que les gens ne vont pas, au contraire, pouvoir mettre la climatisation encore plus tôt en marche pour avoir encore plus de confort, être encore plus dépendant de la climatisation, alors qu'on pourrait penser qu'une autre solution pourrait être de faire en sorte que les gens n'aient plus besoin d'avoir leur climatisation, qu'on n'ait plus besoin d'avoir plusieurs millions de climatisations qui fonctionnent tous les jours. On pourrait par exemple demander aux gens, quand il fait très chaud l'été, de sortir de chez eux et d'aller ailleurs, plutôt que de rester chez soi avec sa clim. Là voilà, c'est un exemple. Mais un autre élément qui est intéressant dans le cas du Japon, c'est justement qu'on peut se demander si cette expérimentation sociale qui vise à changer les comportements n'est pas justement, au contraire, très légitime. Donc là, on aurait une posture bienveillante. Pourquoi? On peut se demander si finalement ce n'est pas ce que désirent les citoyens. Au Japon, différentes études ont été faites, en particulier en 2007, on a proposé à un panel de plusieurs centaines de citoyens, vous préférez le scénario Satsuki Enmei. Satsuki Enmei, c'est les héroïnes de Mon voisin Totoro. Vous savez, vous avez un environnement rural, une vie proche de la nature, etc. Ou est-ce que vous voulez plutôt un scénario Doraemon? Doraemon, c'est le petit robot. Donc il y a un scénario avec moins de croissance, une vie plus simple, plus de matière naturelle, plus de bois, plus de verdure. Et l'autre, plutôt technologique, on ne change pas son comportement et on compte sur le progrès technique. Et la grande majorité des gens préfèrent le scénario Doraemon, donc technocentré, au scénario de la sobriété. Le même test a été fait dans notre projet en 2012. Et là, il y avait trois scénarios. Le scénario du partage, le scénario naturel et le scénario technologique. Et là, 70% des gens préfèrent le scénario technologique. Première raison, principale raison, on ne veut pas changer notre comportement et renoncer à notre confort. Encore un point dans ce sens-là, l'étude de l'OCDE en 2011. Donc là, vous avez un certain nombre de pays auprès desquels on a testé, on a enquêté sur les comportements. Et si vous regardez les résultats du Japon, donc 50% des Japonais pensent que la technologie va résoudre les problèmes environnementaux. Donc, sur l'ensemble des pays testés, il y a 3 pays qui sont en gros à 50%, et sinon tous les pays sont inférieurs. Au Japon, on pense que la technologie va nous aider. Et par contre, si on regarde le pourcentage d'individus prêts à changer leur comportement, à changer leur mode de vie, à renoncer à leur confort pour l'environnement, en moyenne, on est à 85% dans tous les pays. Au Japon, on n'est même pas 50%, ou à peine 50%. Donc finalement, le fait de vouloir faire en sorte que les Japonais acceptent les smart grids, etc., ça correspond quelque part au scénario que, selon les différentes études réalisées par le gouvernement japonais et par le CDE, au scénario que les Japonais souhaitent eux-mêmes. Donc sur cette conclusion un petit peu provocatrice, j'en ai fini et désolé d'avoir un peu dépassé.